On va déguster. Sur France Inter.
Tout essoufflé.
Dans les tons rouges un peu soutenus. Ouais, je vais quand même essayer de prendre un petit peu d'élan. Avec un cri du cœur. I love le French wine. Voilà. Et ce cri du cœur, c'est pour évoquer celles et ceux qui ont façonné ou fait changer, au final, le vin français. C'est-à-dire des vignerons étrangers qui ont fait le choix de s'installer dans l'Hexagone. Et peut-être qu'on tient une espèce de marqueur qui laisse penser que oui, le vignoble français continue d'opérer, continue de séduire. Alors, reste quand même à identifier le ressort intime un petit peu de cette démarche. Est-ce que c'est une captation de valeur très intéressée? Ou est-ce qu'on doit au contraire considérer que cette espèce de vino espéranto doit être pris comme étant un apport vivifiant pour les différents vignobles? Alors, à titre d'illustration, j'ai amené trois bouteilles. Mmh. La première, c'est la métaphysique des cuves. On le doit à Julie Karsten. Elle nous vient des Pays-Bas, elle est installée dans le Gard. Voilà. Donc ça, c'est un Côte-du-Rhône. Vous allez le goûter, rapport qualité-prix magnifique. C'est des vins que typiquement, on peut boire sans diplôme. Ça fonctionne extrêmement bien. Je vous fais circuler la bouteille.
Il y a des crachoirs.
Un petit peu plus bas, on a dans le Roussillon, Wendy Wilson. Elle nous vient d'Afrique du Sud. C'est le domaine Le Soula. Avec une espèce d'ovni, la macération du soula. Macération, on laisse macérer les jus et les peaux pour que les jus se chargent un petit peu en tanin. Mmh. Ça reste des vins blancs avec un caractère un peu spécial puisqu'on les appelle les vins orange. Mmh. C'est un petit peu plus cher, c'est à 30 euros, mais c'est une démarche, un parcours technique lui aussi un peu différent. Et puis, cette Wendy Wilson, elle a vraiment crapahuté, je l'ai dit, elle est née en Afrique du Sud, mais on l'a retrouvée aussi un petit peu plus loin. On l'a vue donc au Cap, on l'a vue en Virginie, aux États-Unis. Elle est allée jusqu'en Anjou pour créer le domaine Piton Paillé, dont certains se rappellent peut-être. Mmh. Et puis, elle est maintenant responsable des 22 hectares du domaine, là, cela, dans le Roussillon. Voilà. Un troisième vin, Sibylle Baldassere. Là, c'est l'Italie, ça va vous parler un peu, François-Régis,
ouais,
peut-être.
Accent, Dominique.
Le domaine, c'est la graine sauvage. Alors là, plusieurs brins d'exotisme. D'abord, son accent, mais aussi ses vins de Faugère. On est dans le Languedoc, cette fois. Les vins de Faugère, on les connaît surtout pour les rouges, c'est-à-dire des sols de schiste qui vont typer fortement les blancs. Et là, sa petite coquetterie, c'est un 2016 en blanc. Et d'ailleurs, on l'a vu apparaître dans la revue du vin de France, il y a quelques temps, identifié comme étant un jeune talent. Mmh. Voilà. Donc, trois vignerons qui dessinent quelque chose. Alors, vous avez remarqué que le curseur était quand même plutôt posé dans le sud. Tant qu'à s'installer, il semblerait qu'on aille chercher un petit peu le soleil.
Le climat est un peu plus facile. Hein.
C'est ça.
Alors du coup, je me suis, moi, lancé depuis quelques années dans un travail de veille et j'ai recensé 450 vignerons, hommes et femmes, à travers la France. Voilà, qui se sont installés en tant qu'étrangers pour faire vivre le vignoble français.
Ah, étrangers uniquement?
Étrangers uniquement.
Ah, ça ne m'étonne pas beaucoup.
450, oui.
Énorme. Mais bon, il y a une vraie tradition. Enfin, le vignoble français a attiré énormément de vignerons étrangers tout au long de ces époques. Enfin, au XVIIIe siècle, c'est les Allemands qui viennent en Champagne pour faire du commerce de drap et qui développent le commerce de Champagne vers l'Allemagne et ils créent des maisons. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de maisons de Champagne qui ont des noms germaniques. À Bordeaux, moi, j'avais fait un recensement à Bordeaux pour le Médoc. On avait 50 nationalités différentes qui ont peuplé le Médoc sur 3 siècles.
Ah oui.
Et on va partager mon salaire parce que c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est parfait. Non, mais effectivement, on continue d'entretenir ce terrain-là. Mais s'agissant des étrangers, il nous revient peut-être d'abord de saluer la mémoire des Romains. Parce que sans les Romains, l'idée même de la vigne dans la Gaule n'aurait pas été possible. Ça, c'est la première chose. Et puis, si on reste dans le registre historique, bah, évidemment, oui, vous avez convoqué la figure des Allemands en Champagne. Vous allez comprendre les rimes très facilement. On peut, par exemple, une figure qui émerge, qui s'appelle Antoine Müller, qui était employé chez Veuve Clicquot, qui a inventé l'étape de remuage. Donc ça, c'est quelque chose qui reste totalement d'actualité aujourd'hui. Et puis, évidemment, il y a la question du négoce qui était très forte en Allemagne. Et on a vu sortir de terre des maisons avec des noms un peu typés comme Krug, Deutz, Bollinger, Bollinger, Mumm, Heidsieck, etc. Et ça, c'est là encore une espèce d'apport synonyme de dynamique technique et commerciale. Les Champenois peut-être entretiennent un rapport un peu conflictuel avec le soleil, mais ils ont aussi une bosse du commerce qui s'est bien développée à ce titre-là. Alors Bordeaux, autre icône, vous l'avez cité, évidemment. Eux, comme les Romains, n'étaient pas venus pour faire du tourisme. Rappelons que quand même, la Gironde était sous domination anglaise pendant 3 siècles. C'est pas le fait du hasard.
L'Aquitaine.
L'Aquitaine, oui. Élargissons le débat. Le département 33 n'existait pas encore tout à fait à cette époque-là. Et donc, fatalement, on va retrouver cette empreinte contemporaine. Château Palmer, Talbot, Kirwan, Brown, etc. Et c'est l'occasion, forcément, de souligner un petit peu l'œuvre, la mémoire d'Anthony Barton, que vous connaissiez, Jérôme, bien sûr. Décrit comme le gentleman de Bordeaux, qui va nous quitter à 91 ans.
Très, très grand monsieur.
Une belle vie de vigneron.
Il est arrivé à Bordeaux, il n'y connaissait rien, il était irlandais. Et en fait, il découvre qu'on boit du vin de table normal dans toutes les maisons bordelaises. anglaises et pas des grands crus.
C'est ça.
Alors, il a été entouré par d'autres Britanniques, forcément, il était entouré par des Belges, on l'a dit, les Chinois qui sont arrivés, évidemment. Alors, peut-être muets par d'autres volontés, c'est-à-dire, c'est la captation de l'image sociale de ce qu'est la France. Une anecdote pour illustrer ce propos, lorsque les Chinois se sont piqués de tourner un téléfilm à Bordeaux, ils ont choisi un château en Pessac-Léognan qui s'appelle Château La France, bien sûr, évidemment. Seulement 2% du vignoble aujourd'hui sont dans des mains étrangères. C'est très contrasté par rapport à ce qu'on a connu au début des années 2000, où on a eu jusqu'à 40% des ventes qui s'échangeaient en direction de vignerons qui venaient d'ailleurs. Voilà. Puis alors, les néo-vignerons qui venaient d'ailleurs ont aussi quand même amené une forme de créativité. On avait cette ancienne France, cet ancien monde. Donc le champ lexical, même le registre des étiquettes s'est trouvé un petit peu bousculé avec des inspirations qui venaient peut-être des États-Unis, de l'Italie, qui étaient beaucoup plus libres dans la manière de se raconter. Puis enfin, pour finir, au titre des étrangers qui font vivre le vin au jour le jour, on est obligé de penser, puisqu'il fait très froid dehors, aux saisonniers. Saisonniers sans qui on ne pourrait faire travailler la vigne. Je cite juste quelque chose que j'ai attrapé chez nos confrères de Vitisphère, qui est un magazine. Sans main d'œuvre étrangère venue d'Europe, de l'Est, d'Espagne, d'Italie, d'Afrique du Sud, du Nord, pardon, une partie de notre société ne va pas pouvoir réaliser le travail des vignes avec notre seule main d'œuvre. Voilà, c'est ce que dit le président des vignerons indépendant de France. L'empreinte reste franche, même si elle n'est pas sur le devant. Et en termes de conclusion, il ne vous aura pas échappé que j'ai convoqué 3 vigneronnes étrangères. Alors quand même, Jérôme, j'ai une question pour finir cette chronique. On observe le palmarès de la Revue du vin de France, il n'y a que des hommes. Donc, ah. Il vous manque quand même la moitié de l'humanité, donc ça laisse penser que peut-être vous reproduisez entre vous. Je n'en sais rien, ça ne me regarde pas. Mais en attendant, quand même, on a depuis l'an 2000 grignoté un quart de siècle. Quand est-ce qu'on rentre dans le 21e?
Oula, justifiez-vous, Jérôme Baudouin, rédacteur en chef.
Votre micro est ouvert.
C'est vrai que le monde du vin est quand même essentiellement masculin. On a la personne.
Par exemple, Vitisphère, dont je parlais tout à l'heure, sort un autre palmarès, 20 personnes, plus du tiers sont des femmes.
Oui, non, mais je sais bien. Bon, on avait remis le prix de la personnalité de l'année à Pascaline de Pelletier. Je pense qu'on a été les premiers à faire, à la mettre en avant.
C'est vrai, sommelier à New York.
Et journaliste du Revue du vin de France.
Ben non, après, elle a été après.
Elle
non,
a
non,
été
non,
après.
Pour être honnête, non, j'ai suivi l'histoire. Je veux pas, je suis l'avocat de personne, mais il est vrai que vous aviez vraiment propulsé.
On a propulsé, Pascaline de Pelletier, parce que effectivement, elle le méritait, mais amplement. Et le travail qu'elle fait à New York sur les vins français, sur les vins du monde, sur
absolument,
les nouveaux
oui,
goûts,
oui.
les
pro. C'est une angevine de talent.